48 FM.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres me transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, la 48e exactement, sur aujourd'hui la littérature des îles avec presque toutes nos chroniqueuses qui sont ici présentes, parce qu'il manque Popo qui est
dans les îles
exactement, et qu'on salue, qui reviendra dans 2 semaines. Salut Valérie.
Salut.
Quelle répartie, dis-moi.
Oh mais alors là, je suis en forme, grande forme.
Tu es vraiment extraordinaire.
Je sais, merci, toi aussi.
Elga la remplace au pied levé, merci Elga d'être là, salut.
Salut.
Ilan est par là aussi, notre stagiaire, il est partout.
Salut.
Voilà, tu peux parler. Et également Héloïse qui est
bonjour
là.
Bonjour à tous.
Voilà, salut Héloïse. Héloïse, avant de commencer cette émission sur les îles, il me semble que tu veux nous parler de quelque chose.
Oui, j'ai reçu un petit livre aujourd'hui dans mes cartons. Je l'ai feuilleté, j'ai lu quelques passages et j'ai eu très envie de vous en parler parce que, comme vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer, ce week-end, c'est les élections
c'est
présidentielles.
C'est Barcelone, Real Madrid. Non, c'est pas ça.
Bon, bah, prono alors, Ludo.
Dimanche. Le Real va gagner.
Ok. Oui. Moi, je parie le contraire.
Non, c'est à Madrid et Barcelone, ils sont mal. D'ailleurs, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions, on va vous l'annoncer en direct. Tiens, bim, à la place de l'Instant Sport.
Très bien. Du coup, c'est vrai que ce week-end, il y a un fabuleux match, effectivement, mais il y a aussi les élections présidentielles. Et j'ai reçu un tout petit livre qui coûte pas très cher, qui est à 2 euros, et qui s'appelle « Votons, ce que Jaurès, De Gaulle, Saint-Exupéry ont encore à nous dire ». Non, ou encore à dire aux Français déboussolés. Donc c'est des citations, c'est des petits extraits de discours ou de leurs journaux ou de leurs mémoires. Et c'est très, ça permet, je pense, de se recentrer sur les sujets importants, c'est-à-dire la démocratie, la République, l'écologie, etc. Par exemple, je vais vous en lire deux courts passages. Un de Saint-Exupéry qui nous dit « On s'élargit par la découverte d'autres consciences ». On se regarde avec un grand sourire, on est semblable à ce prisonnier délivré qui s'émerveille de l'immensité de la mer. Ou encore, si l'on réunissait tous les habitants de cette planète les uns à côté des autres, serrés comme pour un meeting, les blancs, les jaunes, les noirs, les enfants, les vieillards, les femmes et les hommes, sans en oublier un seul, l'humanité tiendrait tout entière dans l'île de Long Island.
Très beau.
Voilà, beau. Donc c'est vrai que, et un petit extrait de notre cher général, peut-être, que j'ai trouvé, pardon.
Sachant que De Gaulle, il a été cité, recité et re-recité pendant toute cette pseudo-campagne.
Oui, mais oui. Qui imaginerait le général De Gaulle mis en examen, se présenter à l'élection présidentielle?
Il faudra que soient réalisées contre la tyrannie du perpétuel abus les garanties pratiques qui assureront à chacun la liberté et la dignité dans son travail et dans son existence. La sécurité nationale et la sécurité sociale sont, pour nous, des buts impératifs et conjugués.
D'accord.
Voilà. Merci Charles.
Mais du coup, c'est vrai que je pense que c'est important de se recentrer des fois quand on est peut-être indécis ou quand on n'est pas sûr, de se recentrer sur des textes importants comme ça et pour recentrer sur les vrais sujets. Voilà.
D'accord, mais après, il ne faut pas voter Saint-Exupéry, ça ne marche pas.
Bah, vous pouvez, mais votre vote sera compté nul.
Voilà, et c'est que des paroles de ces grands hommes sur le fait de voter, sur cette démocratie,
sur ce droit. Oui, voilà,
sur
le vote, mais aussi voilà, sur ce que ça engendre, c'est-à-dire voilà, qu'il faut bien choisir, et il faut bien choisir effectivement le candidat qui défend l'homme. Voilà. L'humanité.
Voilà, y aller voter.
Dans son entière.
Même si c'est pas pour un candidat, aller voter.
Qui fait tout ça.
Mais on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit d'en parler. Là, là, le CSA nous interdit de parler parce que sinon il faut parler de tous les autres et à ce moment-là, on n'a plus de temps pour évoquer ces excellents auteurs qui vont intervenir dans cette émission, notamment notre amie Natacha Apana. Tiens, c'est moi qui commence aujourd'hui. On va changer un peu les règles. Natacha Apana qui a écrit Tropique de la violence chez Gallimard. En août 2016. Alors depuis, elle a sorti un livre, mais j'ai vu qu'il était à 2 euros, donc j'imagine que ça doit être une nouvelle ou ça doit être un court roman.
Oui, voilà, un petit essai, je crois que c'est...
Voilà. Qui a reçu la même année, en 2016, le prix Fémina des lycéens. Donc ça, c'est une première, Héloïse, le prix Fémina des lycéens. Ça n'existait pas avant.
Oui, mais après, c'est vrai que ça devient une mode depuis qu'on a fait le concours des lycéens, de faire voter des lycéens sur des titres. Enfin, ce qui est très bien, comme ça, ça fait lire dans les lycées, on partage... des écrits et des critiques, mais voilà, c'est vrai que le féminin des lycéens, c'est nouveau, inspiré, je pense, du Goncourt des lycéens.
Voilà, elle pourrait dire, j'ai reçu le premier prix féminin des lycéens. Il a reçu cette année le prix, en 2017, France Télévisions. Alors ça aussi, je ne savais pas que France Télévisions donnait des prix.
Après, on l'a déjà dit dans cette émission, mais il y a énormément de prix qui existent et on ne les connaît pas tous, loin de là, ouais.
Voilà, et on comprend pourquoi, après l'avoir lu, de toute façon, ils ont choisi ce livre pour le primer, car c'est un livre vraiment, vraiment magnifique. Alors, je fais une petite aparté avant de commencer, parce qu'au vu de la quatrième couverture, au vu du thème, c'est un livre que j'aurais jamais acheté, mais vraiment. Donc, un grand merci à Héloïse de nous proposer ça. Donc, on répétera jamais assez l'importance des libraires pour proposer des livres. Non, mais c'est vrai, parce que vous pouvez
acheter... Oui, je suis d'accord, totalement d'accord.
Chez un libraire, allez, vous pouvez peut-être acheter un livre 50 centimes, 1 euro, 1 euro 50 plus cher, mais ces conseils n'ont pas de prix, finalement.
C'est
non,
faux.
Non.
Voilà, j'avais...
Jack Lang, j'ai si préparé... tu nous écoutes.
C'est de la provocation, tu commençais par un beau compliment et là, tu me provoques.
J'ai préparé le jingle coup de gueule. Dis-moi,
je
alors,
le répète inlassablement... Le prix du livre est le même partout, c'est la loi Lang, le prix unique du livre. On a le droit de faire un maximum de remise qui est de 5%. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. Le prix du livre est fixé par l'éditeur et c'est partout pareil, pour ne pas citer les grands groupes qui vendent en ligne.
Comment ça? Donc tes conseils sont gratuits?
Exactement.
D'où l'importance d'avoir une bonne librairie chez soi, d'aller la voir et surtout de l'interroger.
Ce week-end, c'est la fête de la librairie indépendante.
Ah. Et en plus, ils font la fête. Hein. Que les grands groupes qui font...
On sait faire la fête et on offre des petits cadeaux. La plupart des librairies indépendantes qui participent offrent des petits cadeaux, que ce soit une fleur, que ce soit un livre, que ce soit voilà, une affiche. Donc n'hésitez pas à venir samedi, moi j'y participe à la lorgnette et il y a des petits cadeaux.
Ah, chouette. Non, tu peux pas samedi, tu es prise Valérie.
Oui, mais l'après-midi je peux.
L'après-midi,
moi,
tu fais
une fleur, en tout cas.
Bon, revenons à notre livre, s'il vous plaît, qui s'appelle « Tropique de la violence ». C'est un livre comme je les aime, c'est-à-dire c'est une écriture qui est assez simple, directe, poétique, sans vocabulaire superflu et indigeste, vous commencez à me connaître dans cette émission. C'est une histoire qui pointe du doigt les problèmes de cette île qui est devenue en 2011 le 101e département français, qui se situe à 7000 km de Paris et donc qui est un peu laissé à son sort. On peut faire un parallèle un peu avec la situation que vit la Guyane en ce moment.
Qui n'est pas une île.
Ah qui bon n'est pas une
attention
île, mais qui est loin de la capitale et qui est donc un peu délaissée par toutes les politiques qui peuvent être mises en place par les différents gouvernements. L'histoire de ce livre débute avec Marie, une jeune fille vivant dans le nord de la France, nord-est. On ne sait pas où exactement, mais d'après les descriptions, voilà, ça sent un peu l'Alsace ou la Lorraine. Elle est âgée de 23 ans au début de l'histoire. Elle n'est pas très expressive. Elle est un peu déboussolée. Elle vit avec sa mère qui est un peu dérangée, qui écoute du Barbara à longueur de journée. C'est pas pour ça qu'elle est dérangée.
C'est beau, Barbara.
Mais c'est une conséquence de sa folie. Et ce premier chapitre, qui s'intitule Marie, du nom de Marie, nous montre, écrit à la première personne, l'évolution de ce personnage de 23 ans jusqu'à ce qu'elle devienne infirmière, qu'elle tombe amoureuse de Cham qui est de Mayotte, puis qu'elle se marie avec lui et parte travailler sur l'île française. Donc l'évolution est assez rapide, on prend à peu près un an par page. Voilà, il aurait fallu, j'ai gardé un passage pour vous lire.
Mais je vais en chercher un
voilà,
si tu veux.
Mais c'est bon. Donc non, ça commence en disant « J'ai 23 ans et le train arrive, bleu et sale, je quitte la vallée de mon enfance où j'étais une petite chose faible et perdue, écrasée par les montagnes. » Elle parle, et de 5 lignes après, j'ai 24 ans, je suis toujours aussi faible et perdu, je termine mes études d'infirmière. Voilà, on suit l'évolution, c'est assez rapide. Donc, elle se marie avec ce Cham, elle part travailler avec Cham dans l'île de Mayotte.
Qu'elle connaissait pas du tout.
qu'elle connaissait pendant ses études d'infirmière. Mais ça va assez vite, c'est en l'espace de 2-3 ans, ils se marient, ils partent. Elle travaille dans un hôpital, lui dans un autre. Donc une fois qu'on a un mariage, une maison et un travail, et qu'est-ce qu'on cherche, Valérie ?
Un divorce ?
Non, avant.
Ah, on fait des enfants, pardon.
On fait des enfants. Donc, elle cherche à avoir des enfants, mais elle n'y arrive pas. Malheureusement, ce qui la rend petit à petit aigrie, un peu dépressive. Alors, elle voit dans cet hôpital où elle travaille dans le service des urgences, le flot de femmes enceintes qui arrivent des Comores pour accoucher sur le sol français. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche, bien sûr, à obtenir la nationalité française. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à quitter cette misère du pays d'où elles viennent. Et Marie, qui devient de plus en plus aigrie, se demande finalement que cherchent ces femmes, si elles veulent vraiment avoir un enfant ou obtenir des papiers, alors qu'elle cherche à avoir un enfant. Et donc, cette situation la met vraiment à mal. Elle sent cette violence qui monte en elle, et en même temps elle se dit c'est pas normal, je suis infirmière, je suis là pour aider ces gens, mais c'est plus fort qu'elle, elle arrive pas à avoir d'enfants, et ces personnes qui ne veulent pas d'enfants finalement arrivent à en avoir. Donc ça commence à se passer mal, et au final qu'est-ce qui se passe, son mari la quitte, elle croise sa nouvelle femme, la nouvelle femme de son mari, qui pousse un landau, puis deux landaus, donc ça la rend encore plus folle, encore plus aigrie, elle se rapproche un peu de sa mère, jusqu'à une nuit à l'hôpital, où une femme venue des Comores abandonne son fils aux yeux verrons à Marie, qui est donc infirmière dans le service des urgences. Elle adopte cet enfant, elle l'appelle Moïse. Alors pourquoi cette femme a abandonné son enfant ? Tout simplement parce qu'il a les yeux verrons, et que dans la religion musulmane, il existe un personnage qui s'appelle le djinn. Alors les djinns sont des créatures surnaturelles issues de croyances qui sont généralement invisibles et peuvent prendre différentes formes, sont capables d'influencer spirituellement et mentalement le genre humain. C'est un peu le malin pour la religion musulmane. Il n'est pas précisé que ces djinns ont des yeux verrons, mais pour cette femme, il se dit c'est un enfant qui n'est pas normal, il a deux yeux différents. Donc vite, c'est une preuve de malédiction. Faut que je m'en sépare. Marie, elle, infirmière, pour elle, c'est un enfant qui a atteint d'érectochromie, c'est une anomalie génétiquement absolument bénigne, et c'est surtout l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir. Donc elle l'adopte, s'ensuit des jours heureux jusqu'à la mort brutale de Marie à 47 ans suite à une artère qui explose dans son cerveau. Donc après 22 pages...
Ah mais là c'est que 22 pages que tu nous as raconté.
C'est que 22 pages, voilà. Oh là là. Après 22 pages s'ouvre le deuxième chapitre qui s'appelle Moïse, où l'on suit la suite de cette histoire, toujours écrite à la première personne, par Moïse. Donc tout le long du livre, jusqu'au dénouement, on va suivre l'histoire par le biais de différents personnages qu'on peut retrouver au fur et à mesure.
Moïse parle de sa mère, du coup ?
Moïse parle de sa mère. Donc on arrive, je ne vais pas vous dire où se situe Moïse quand il démarre, parce que bon, voilà, j'ai parlé du premier chapitre, on va peut-être s'arrêter là. Mais il parle de sa mère, après il revient sur cet événement quand elle est morte, il revient un peu plus tard. Sa mère disparaît pas totalement, des fois elle revient en fantôme, ou elle le voit, ou elle voit d'autres personnages qui meurent dans le roman, qui le voient aussi, qui racontent l'histoire à leur façon, des événements qui sont passés, qu'on a vus. Mais ce n'est pas du tout compliqué. C'est vraiment une suite logique, et des fois on revient juste un peu en arrière pour expliquer ce qu'on a lu dans le chapitre précédent.
Mais tu t'es jamais perdu dans la chronologie.
Ah, jamais. Mais vu par un autre personnage. Donc c'est vraiment clair, c'est concis. Et donc ce Moïse, juste parler un peu de ce deuxième chapitre, à l'adolescence, là où on le retrouve, Moïse devient Mo. Il ne comprend plus pourquoi il a été élevé comme un musungu, donc un étranger. Ils se sont abandonnés. À la mort de Marie, il plonge alors dans l'enfer du plus gros bidonville de l'île, surnommé Gaza. Et c'est ces pérégrinations qu'on va suivre, et la rencontre avec les autres personnages. Donc tous les chapitres sont les noms de personnages qui nous racontent cette histoire. Parmi ces personnages, il y a donc Marie, il y a Moïse, il y a également Stéphane, c'est le cliché d'un jeune humanitaire qui restera traumatisé de son expérience sur l'île. Il y a Olivier, un policier qui sait déjà que Mayotte n'attend plus qu'une allumette pour s'embraser. Et Bruce, un jeune adolescent de l'âge de Moïse, qui est le chef de Gaza, donc de ce bidonville, qui ne s'appelle pas Gaza, je ne l'ai pas noté, qui a un autre nom. Mais c'est tellement un bidonville, c'est tellement un ghetto, que tout le monde le surnom de Gaza s'est graffé en grosses lettres. Donc finalement, c'est un livre qui, par le biais de cette histoire qui est extrêmement bien construite et haletante, nous parle de ce département français qui est laissé à l'abandon, sur les problèmes de manque d'infrastructures, de politiciens corrompus, de problèmes d'immigration, de violence, de drogue, de problèmes d'éducation, de ghettos. Donc oui, il faut savoir qu'en France, il y a des ghettos, il y a des bidonvilles, même si c'est à 7000 km de Paris. Et c'est parce que c'est à 7000 km de Paris qu'on n'en parle jamais. CF, la Guyane, c'est département éloigné d'outre-mer qui sont loin des yeux et donc loin du cœur. Et cette histoire nous fait comprendre, à travers les cinq narrateurs, les enjeux de cette île, avec ces cinq personnages qui sont totalement opposés et finalement presque identiques, je dirais.
Mais ça donne du coup un aperçu assez complet de la situation de l'île aujourd'hui. Est-ce que tu penses, l'auteur, elle y est allée, elle est de là-bas, elle connaît ou...
Alors l'auteur, Natacha Apana, écrit ce livre après une résidence à Mayotte qui a duré 2 ans, de 2008 à 2010.
C'est assez long quand même comme résidence.
C'est assez long, donc elle a pu rencontrer, elle a expliqué, je suis allé voir certaines interviews de cet écrivain, elle a rencontré ses enfants des rues justement, parler un peu avec eux, leurs problèmes. À mon avis, elle a dû rencontrer différents personnages également, comme des infirmières, des services d'urgence, qui voient arriver tous les nuits ces bateaux venus des Comores avec toujours 5 ou 6 femmes enceintes, quelques personnes mutilées qui viennent à cet hôpital parce qu'ils savent qu'ils vont être soignés alors qui ne le sont pas sur son île. Donc j'imagine qu'elle a dû les rencontrer. Il y a plein de personnages secondaires aussi dans ce livre qui viennent se greffer à l'histoire. Donc Cham, le mari puis ex-mari de Marie, le politicien corrompu, une horde d'enfants des rues qui nous rappelle que finalement, délaissée par tout le monde, cette jeunesse perd sa signification et que ça devient plus des jeunes, mais au final, on ne sait plus comment qualifier ces personnages, si c'est des orphelins, des enfants soldats, des trafiquants, des chefs de guerre, parce qu'ils vivent de petits trafics, ils sont vraiment dans une situation désespérante.
Ils sont seuls, quoi. Ils sont seuls,
ils sont sans argent, ils sont sans rien, ils vivent de trafic. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de voler quelque chose, de le revendre. Il y a la drogue qui se met dedans. Et après, il y a toute cette histoire de ghetto où ce Bruce devient un peu le chef du ghetto. Donc, il essaye de bien se faire voir des autres tout en se faisant craindre. Voilà, on sait ce que c'est.
On comprend le titre, alors.
On comprend le titre. Donc, Natacha Apana est née sur l'île Maurice. Elle n'est pas née à Mayotte. C'est une journaliste romancière. C'est son 7e livre. Son dernier, donc, on en parlait tout à l'heure, il se nomme « L'éloge des fantômes ». Donc elle a reçu plein de prix durant sa carrière, t'as dit qu'il y en avait plein, le prix FNAC, le prix des lecteurs de l'Express, le grand prix littéraire de l'océan Indien et du Pacifique, etc., etc. Donc vraiment, vivement, je le conseille, c'est vraiment un livre, mais magnifique.
Et c'est pas trop dur, enfin, ça t'a pas plombé un peu, non ?
Non, parce qu'on est tellement pris avec ces personnages, on suit l'histoire, ça nous pointe les problèmes, mais c'est pas écrit de manière... sombre. C'est vraiment une histoire qu'on suit, on est pris dans l'histoire et ça nous montre quand même les difficultés de cette île, mais c'est...
Il y a un peu de lumière dans tout ça ou ça reste sur cette note
Je peux pas en parler parce que sinon je vais dévoiler la fin.
Bon.
Non, ça reste quand même sur une note, mais qui montre voilà, les problèmes d'une île, encore une fois. Mais bon, ces personnes, malgré toutes leurs difficultés, on les suit, elles vivent, elles sont heureuses de vivre là. Ce chef Bruce partirait pour rien au monde de Gaza parce que c'est sa vie. Il aime passer devant ses usines d'ouvriers, sentir les odeurs de cette île. Après, ils vont parfois dans d'autres endroits de l'île qui sont beaucoup plus jolis. D'ailleurs, je vais vous citer un passage que j'avais noté. Donc, c'est Moïse qui parle. Sa mère a débarqué sur le rivage de Bandrakouni avant de partir à l'hôpital. C'est une côte de l'île où les gens des Comores viennent parce qu'ils viennent toujours du même endroit. Ils arrivent au même endroit. Il dit... là, ça vous montre un peu la violence de ce personnage, de ce qu'il est en train de vivre, de cette remise en question. Il nous dit « Quand je suis revenu sur le rivage de Bandrakouni, j'ai réalisé que j'avais peu à peu l'âge de ma mère quand elle avait débarqué sur cette plage de sable noir encerclée de baobab. Avait-elle eu peur dans la nuit pendant la traversée ? Est-ce que j'avais pleuré ? Savait-elle qu'il y a un creux dans les baobabs dans lequel elle aurait pu me glisser ? Je me serais endormi, puis je serais mort dans ce creux-là et j'aurais été un peu cet arbre, invincible, admirable. » C'est une vie magnifique que d'être un baobab sur une plage. Voilà. C'est extrêmement bien écrit. Et c'est très, très beau. Et c'est pas compliqué à lire. Ça se lit, mais poupe d'une traite. Voilà. Donc, pour finir cette chronique, après ces clics coulons, j'espère que nous aurons droit et la chance d'apercevoir Natacha Apana, la librairie La Lorgnette. Voilà. Valérie, tu avais une dernière question qui...
Non, c'est, je comprenais pas pourquoi il disait que sa mère avait dû arriver sur la même plage. Elle était pas...
Mais c'est la première fois qu'il revenait sur ce rivage, sa vraie mère. Marie n'avait jamais voulu l'amener en lui disant « tu n'es pas encore prêt ». Ouais. Il a eu la chance à un moment d'y aller.
D'accord.
Il y est allé Et finalement, parce qu'il ne savait pas quoi s'attendre, c'est une plage magnifique, il voit ses baobabs, et dans la situation où il est à ce moment de l'histoire, il se dit finalement, est-ce qu'il... ça aurait été bien mieux que je reste là. Et la fin, la chute de ce livre est magnifique.
D'accord.
Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Qui sait qui a un livre aussi élégant que le mien ?
Ah, Pauline, je pense qu'elle a un livre.
Alors,
comme
Pauline,
ça.
Pauline n'est pas là.
Pauline, elle n'est pas là, mais elle m'a envoyé son. Tellement son livre était sensationnel.
Mais elle est sérieuse.
Non, je suis très sérieuse quand je dis ça, quand je disais je remplace Pauline.
Vas-y, Valérie.
Pauline, elle a eu un énorme coup de cœur pour un livre et elle m'a donc envoyé son petit résumé. Alors, ce livre s'appelle « Rapatrier », donc ça fait quand même un lien avec le tien, Ludo. C'est de Néhémie Pierre Dahomé. Néhémie, c'est son prénom, Pierre Dahomé, son nom de famille. C'est un jeune haïtien qui est étudiant en philo à Paris, et c'est son premier livre qui est édité donc, chez Seuil. L'histoire, donc, c'est en 1987, c'est une jeune fille qui s'appelle Belliqueuse Louisin, décide de quitter Haïti. Elle embarque avec une quarantaine d'hommes et de femmes à bord du voilier qui s'appelle Frère Fanon, qui est plus un petit caboteur qu'un grand capitaine des mers. Avec Nathan, son petit de 2 ans, elle rêve de rejoindre les plages de Floride. Évidemment, la tempête arrive et Belliqueuse voit la mort venir. Elle choisit alors de jeter son petit à la mer, d'abandonner. Mais finalement, elle survivra. Ça commence. Mais c'est un livre pour Pauline, hein, donc.
Ouais, ça commence bien. Waouh.
Ça pouvait pas commencer. 10 ans plus tard, Belly vit à Port-au-Prince chez ses parents et rend régulièrement visite à Sobner Saint-Just, dit Néné, son mari. Depuis Nathan, ils ont eu 2 autres enfants, la jeune Marlene et une petite dernière qui a touché ses 2 ans sans avoir été baptisée. Donc, suite au naufrage, les survivants s'étaient vus allouer un petit lopin de terre dans un no man's land en banlieue de Port-au-Prince, le village de Rapatrié. Billy et Néné décident de s'y installer dans l'espoir que Néné assume enfin son rôle de père. Ils y construiront une petite maison, un foyer. La petite dernière se baptisera elle-même Bélial, et Billy tombera de nouveau enceinte. La vie n'est pas toujours évidente. Belly tente de nourrir sa famille en vendant ses quincailles au marché du coin et Sobner, qui est un vrai papillon, ne tient pas en place. Mais Belly, qui est plein d'amour pour ses enfants et la famille, vit dans un doux bonheur. Rapatrié reste un quasi-bidonville qui ne dit pas son nom et Marlene va tomber malade et succomber à la tuberculose. Livre de Pauline. Belly ne sait plus alors comment se battre, prend à nouveau une décision qui va peser toute sa vie. Et là, hop, elle nous laisse sur la fin, Pauline.
On peut te poser des questions sur le livre ?
Attends, deux secondes, parce qu'elle n'a pas fini. Donc, Pauline précise que si on lit la 4e de couverture de Rapatrié, on saura quelle est la décision qu'a pris Belly. Donc, elle recommande à tous ceux qui vont se jeter à la lorgnette pour acheter Rapatrié, de ne surtout pas lire le 4e de couverture. Mais elle encourage vivement monde à lire le roman. Voilà. Elle précise aussi, Pauline, qu'on va rire de toutes les situations cocasses dans lesquelles se retrouvent Belly, Sobner, Diogène Décilius, Madame
ça,
Pompilus estimée.
Quand elle a la tuberculose, tu te tapes un fou rire.
Ça a l'air bien rigolo. Chouette, la tuberculose.
Merci, Pauline.
En fait, apparemment, les personnages, ils ont l'air très touchants. Ça a l'air haut en couleur et c'est plein de tristesse, mais aussi de tendresse. Et c'est l'écriture de Néhémie transforme tout ça en une force incroyable.
Qui est choisi de la 4e de couverture ? Ce sont les éditeurs ?
Oui.
Mais ils demandent l'aval de l'écrivain quand même, non ?
Je pense pas, non.
Ça dépend des éditeurs, je pense.
C'est vrai que c'est important, mais en même temps, tout ce qui est fabrication, maquette, c'est l'éditeur qui s'en charge, on ne sait pas. Hein.
Et c'est là qu'on voit que selon les livres, les 4e de couvre peuvent donner très envie, et après on les lit, on est là, bon, bah d'accord.
Oui, après, par exemple, quelqu'un, soit tu t'énerves en ce moment de Folio qui met juste des citations à la fin des extraits en 4e.
Un extrait, pour moi, c'est pas représentatif d'un livre, quoi. Mais après, j'ai lu des livres où la 4e de couvre me donnait très envie, et je m'attendais à quelque chose, et en lisant, bah en fait, c'est pas du tout ça, et du coup, on a l'impression de rater quelque chose, quoi. Donc en fait, c'est assez aléatoire, quoi.
D'où l'importance des libraires, même si les livres sont plus chers, d'aller les voir. Non, je rigole.
Oh, non, mais tu sais, rectifie ce que t'as dit, les livres sont pas plus chers.
Mais je sais, je vous exprime pour ça.
Si quelqu'un l'entend et le croit,
le livre est au même prix, et le conseil et le sourire est offert.
Oui, et surtout le sourire. Hein.
Mais... Ouais. Et donc, Pauline, je pense, voudrait aussi que Néhémie vienne amende.
D'accord, mais c'est un auteur de...
Non, mais elle
ne
peut pas avoir...
Quel...
Je l'ai dit avant, moi.
Mais la tienne une semaine et le sien la semaine d'après.
C'est un auteur de quelle origine, du coup ?
Il est haïtien. Et il est tout jeune, hein, il est né en 86.
Ah oui. Ah
ouais. Donc, voilà.
Bah, appelle-le, que s'il doit venir en pirogue, vaut mieux que tu
prennes
maintenant.
Non, mais il habite à Paris maintenant.
Donc, ça, on était bien parti, et là, on sort un cliché, là.
C'est ça. Ça y est, là, on a basculé dans la connerie.
Ouais, c'est ça. Qui veut parler?
Merci Pauline, en tout cas.
Merci Popo. Alors,
merci.
Rapatrié au seuil.
Au seuil, voilà, qui a l'air d'être vraiment super.
Moi, je veux bien parler parce que mon auteur, il est haïtien aussi.
Ah, mais
est-ce
voilà.
Qu'on fait une pause musicale d'abord ou est-ce que non?
Est-ce qu'on fait une pause? Allez, on fait une pause musicale. Okay. Après, on... alors qu'est-ce que tu nous as choisi comme titre, Héloïse?
Alors, c'est un musicien qui nous vient du Nil aussi, qui vient d'Islande.
Cool. Le Kirkjörg Beilarjörstrup.
Christen.
Tu l'as encore.
Christjörg Beilarjörstrup.
Je me prépare à immigrer là-bas.
Arnalfur.
Alors, pas du tout, Héloïse.
Non.
On fait une émission sur les îles et tu penses vraiment que je ne vais pas passer la compagnie créole, mais pas du tout. Eh oui. Mais quoi?
Je crois que c'est l'anniversaire de ton stagiaire Ludo aujourd'hui.
Non.
Bon anniversaire. Bon anniversaire.
Poste ta tartine de Roquefort et dis merci.
Allez, on va sortir le champagne. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie?
Non, est-ce que je peux faire une petite parenthèse jardinerie?
Tu as tous les droits dans cette émission.
En fait, il ne faut jamais mettre des CD dans vos arbres pour faire fuir les oiseaux. Parce qu'au contraire, ça fait rire les oiseaux et chanter les écureuils.
Oh putain.
C'était pour Héloïse.
Héloïse qui est ravie de cette chanson.
J'ai adoré cette chanson.
Non, j'avais proposé deux choses, mais magnifiques à Ludo.
Mais c'est... Tu oses dire que c'est pas magnifique, ça?
Dans du rap estonien.
Oh, du rap estonien,
le rapport
ça
avec
beaucoup,
les îles. L'Europe Estonie.
L'Estonie, c'est une île au milieu de l'Europe de l'Est.
D'accord.
On est comme elle, ça arrange. Mais alors, avec ça, tu peux tout.
La Guyane est une île aussi, apparemment. Donc.
Sache que s'il y a les mots île, soleil, oiseau, carnaval, il y aura obligatoirement la compagnie créole. C'est comme ça dans cette émission.
Très bien.
Mais t'as fait pirogue et maintenant la compagnie créole. Tu vois, on continue dans le cliché. Quoi.
Mais ce n'est pas un cliché, la compagnie créole, bon, ce grand groupe français qui vient des îles. Non, mais ah, si on vous écoutait, on n'entendrait pas de la bonne musique.
Non, c'est sûr.
Ok, donc moi, allez, je vais tous vous déprimer avec mon livre.
Oh, oh,
je vous jure. Hein.
Ah, mais je vais passer le morceau d'Héloïse, si on parle de déprime.
Non, mais Ludo, ça peut faire écho au tien sur Mayotte. Parce que, alors, moi, je vais vous parler de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien, publié chez Zulma. Zulma, qu'on connaît pour publier de la littérature étrangère, engagée et compagnie.
De haut niveau. Mm-hmm.
De haut niveau.
Et leurs livres sont très beaux.
Aussi. Ça ne gâche rien. Alors, Jacques Roumain, il est né en 1907 et il est mort en 1944, donc il est mort assez jeune, effectivement. Il vient d'Haïti, il est né à Port-au-Prince, et son œuvre, en fait, tourne autour de l'île, qui a été indépendante en 1804 suite à une défaite de Napoléon. Donc, elle a été française, c'est pour ça que les langues officielles d'Haïti, ce sont le français et le créole. Jacques Roumain, c'est un homme politique qui est le fondateur du Parti communiste haïtien, qui a notamment dû être exilé à cause de ses engagements. Et c'est aussi un journaliste, un romancier, un poète, et il avait aussi fait un travail d'ethnologue. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui s'est intéressé beaucoup à son pays. Et son œuvre s'attache à retranscrire la rage et la frustration de son peuple, que lui considère comme piétiné, jamais estimé, quoi.
Et par rapport effectivement à la colonisation, par rapport à tout ça.
Oui, par rapport au fait que, voilà, à un moment on a eu besoin d'eux. Et après, on les a laissés de côté et du coup, bah, on les a laissés tomber dans l'oubli et on les laisse avec leurs problèmes sans les aider. Quoi.
Mais ça revient souvent, effectivement, cette question de l'oubli, effectivement, cette question d'être mis de côté.
Césaire en parle aussi. Enfin, moi, le peu d'auteurs des îles que j'ai lu, c'est toujours ce genre de pensée. Quoi.
Mmh. Monaco tombe sur la Juventus de Turin.
Oh.
Allez-y.
Super info.
Très bon tirage, Héloïse, pour Monaco.
La Juve.
C'est le meilleur, oui.
Moi, sinon, je suis pour la Juve.
Sinon, on peut en débattre lundi à midi et demi.
Non, voilà,
café
pendant
des sports.
L'instant sport.
Non, mais Héloïse.
Je préfère entendre parler d'Haïti et de
Japon. Moi aussi, même si c'est très
allons-y.
Triste.
Donc, Gouverneur de la Rosée, c'est un livre qui a été publié en 1944, après la mort de l'auteur, qui a eu des ventes pas terribles, mais qui aujourd'hui, en fait, est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature haïtienne, qui inspire encore beaucoup les auteurs du pays, mais par les critiques. Quoi. Donc, au début, c'était un peu pourri, et maintenant, c'est génial. Quoi. Et ça a été réédité par Zulma, je ne sais plus en quelle année, quoi, mais c'est assez récent. Quoi.
Oui, c'est récemment, dans les 10 dernières années.
2013 pour la présente édition. Donc voilà, on a redécouvert ça il n'y a pas si longtemps en France. On va suivre en fait un personnage qui s'appelle Manuel, qui revient chez ses parents dans un petit village d'Haïti, après 15 ans d'exil en fait, à Cuba. Il est parti à Cuba pour travailler dans les champs de canne à sucre. Et il revient. Il est confronté dans son village à une misère totale et aussi à une tension entre les habitants où il y a deux clans parce que un habitant a tué un autre habitant et du coup ils prennent parti. Donc il y a deux clans où personne ne peut se mêler, ils sont ennemis, quoi. Et en même temps, il n'y a plus d'eau. Les deux sources proches du village sont complètement sèches et du coup, tout le monde est en train de tomber dans la misère la plus totale parce qu'il n'y a plus possibilité d'irriguer les champs, de faire de la culture, que ce soit pour leur propre consommation, mais aussi pour la vendre dans les marchés aux alentours. Donc, Manuel revient dans une ambiance pas terrible.
Tu m'étonnes. En disant j'ai soif.
Et est-ce qu'il revient avec un peu d'argent pour sa famille?
Il revient avec un peu d'argent, mais il le dit dans le roman, en fait, l'argent va être dépensé pendant un rite un peu, pas vaudou, tu vois, mais un peu les croyances.
Oui, mais c'est du vaudou, hein, voilà, en Haïti particulièrement, c'est là où sont nés les zombies. Hein.
Et du coup, il donne l'argent comme ça. Non, mais c'est vrai, hein. Il en parle dans le livre, hein, des zombies.
Non, je voyais plus des trucs, des sacrifices.
Où sont nés les zombies? Est-ce que tu peux un peu plus approfondir?
Bah, la culture zombie vient d'Haïti, c'est-à-dire.
Ah bon,
voilà. Vaudou, ouais.
Des vaudous, je savais, mais je savais pas le rapport entre zombies et vaudous. Mais... C'est le retour des morts, en fait, plutôt,
c'est ça.
Tu veux dire. D'accord.
Et donc, il perd son argent à ce moment-là, donc après, il se retrouve, sa petite famille et lui, dans une situation pas terrible. Et en fait, lui, vu qu'il a été à Cuba, il connaît l'agriculture moderne. Et du coup, il va se mettre en tête de trouver une nouvelle source et de mettre en place un système d'irrigation.
Ça ressemble un peu à Pagnol, là, du coup. C'est ça. Sécheresse, on va chercher une nouvelle source toute sa vie. Est-ce qu'il va réussir ou pas ?
Il va réussir, mais ça va causer aussi sa perte. Parce qu'en fait, quand il trouve la source, il va dire le seul moyen de bien exploiter cette source, c'est de faire un kumbité. Donc c'est un travail agricole fait par plusieurs personnes. C'est voilà, un mot créole. Et du coup, c'est possible que si tout le monde est réuni, en fait. Donc il va faire en sorte de dire aux gens, vous avez été en colère les uns contre les autres pendant des années, maintenant ça suffit, il faut qu'on se mette ensemble, sinon on n'en sortira pas, quoi. Et parce que l'eau, c'est la vie. Et du coup, ils vont être obligés, quoi. Et tout en faisant ça, lui, il va transmettre des idées communistes, ou en tout cas, une nouvelle forme de socialisme où voilà, il faut être ensemble. Ils sont opprimés parce que ce sont des ouvriers, ils sont dans les basses classes de la population, mais il ne faut surtout pas qu'ils perdent leur solidarité pour pouvoir faire des choses. Donc là, c'est aussi les idées un peu politiques de l'auteur qui reviennent. Et voilà. Et aussi dans le roman, il y a une histoire d'amour avec Anaïs. Donc moi, sur Internet, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient cette magnifique histoire d'amour. Pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus représentatif du roman, très clairement. C'est assez joli, effectivement, mais on voit, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan paysannerie d'Haïti et compagnie, quoi.
Mais parce qu'après, c'est vrai qu'on présente ce roman comme le Roméo et Juliette haïtien.
Ouais.
Mais non, en fait,
moi,
c'est...
Je trouve... Si, il y a un peu ça, parce que du coup, elle, elle est dans le clan ennemi et lui dans l'autre. Donc effectivement, il y a ce côté un peu Montaigu-Capulet. Mais pour moi, ça a été très léger par rapport à toute la description de la misère, du paysage ou de ça, en fait. Mais effectivement, il y a ce côté un peu Roméo et Juliette, quoi.
Donc c'était peut-être un prétexte pour l'auteur pour effectivement exposer ses idées et exposer la situation de son île aussi.
Voilà, exposer en tout cas la situation des campagnes, quoi. Et la langue du livre est très particulière. Je ne sais pas du tout si l'éditeur a retravaillé la langue. Je ne pense pas, vu que le français est la langue officielle. Mais en tout cas, il y a quelques mots créoles.
S'il a écrit des en façons, créole entièrement, voilà, peut-être.
Des façons de parler qui sont un peu bizarres, mais qui, grosso modo, sont très compréhensibles. De toute façon, il y a un lexique à la fin. Donc du coup, si on est un peu perdu, on peut chercher dans le lexique.
Tu peux nous en dire quelques mots, du coup, en créole ?
Moi, je peux dire des mots en mayoté aussi.
Bah, vas-y.
Attends. Je reprends mon livre.
Chiche.
Moi, j'ai cru qu'il allait nous faire le langage créole comme on faisait dans la cour de récréation.
Ah non, non.
Non.
Non, mais je m'attendais à ça. Après la pirogue et tout, je m'attendais non, mais... à ça.
On te dira après.
On fera après.
Bakoko. Bakoko, ce qui signifie vieil homme.
Et Bakaka, la vieille femme.
Non, je ne sais pas. Il ne parle pas de vieille femme. Soussou, c'est une prostituée.
Ah, toi aussi, t'as un lexique.
Soussou. Et elle te coûte 5 cobres, la prostituée.
Je ne sais pas. Ce n'est pas donné.
Oui, il y a Capon, ça veut dire peureux.
Peureux. Mm-hmm. J'ai Kadi, qui est un juge musulman.
Ouh, j'ai un zumbido, un eloïdo.
Et c'est quoi ?
Ah, j'ai des bourdonnements dans les oreilles.
J'ai un Ungan, qui est un prêtre dans le culte vaudou, voilà, mm-hmm. par exemple. Donc voilà, donc le lexique est là pour aider, mais après, moi je m'en suis très peu servi parce que.
Est-ce
les
que
mots
tu comprends
sont nus,
le
mais par exemple, ils parlent. Non, pas du tout. Mais ils parlent d'arbres, par exemple, avec des noms créoles. Mais du coup, vu que c'est la description d'un paysage, ça passe. Quoi. On n'a pas forcément besoin. On s'imagine très bien comment peut être la nature et compagnie. Et moi, en fait, j'ai horreur, quand je lis un livre, de devoir aller à la fin pour chercher un
moi,
truc.
Ah, moi, ça m'énerve.
Ça m'énerve,
aussi.
Ça me coupe.
Je
et
suis
j'aime pas
totalement
ça,
d'accord avec toi. Je ne suis pas pourri, voilà. Mais ce n'est pas tous des astérix, c'est que juste en dessous
de la
page.
Non, mais parfois, c'est trop long quand il y a des notes de traducteur.
Ah, ouais,
si elles te prennent la moitié de la page, bon, c'est pas génial.
Ça dépend. Mais du coup, la langue est assez chantante, assez fleurie.
C'est très poétique. Très poétique. Il y a beaucoup de travail. On sent qu'il a. Il a pris du temps pour écrire ses paragraphes, notamment quand il décrit le soleil, la chaleur ou la situation dans laquelle sont les habitants. Avec aussi ces passages-là qui sont coupés par des dialogues qui peuvent paraître très brusques, mais du coup qui font un savant mélange et qui en font un livre très intéressant. Quoi.
Alors toi qui as lu le livre en entier, ça se finit bien ?
Bah, va pas nous le dire.
Mais je vais pas dire.
Ah, d'accord.
En plus, je l'ai pas lu en entier, mais je me suis fait spoiler la fin en cherchant sur Internet des trucs.
Ludo, que tu es méchant.
Non, je savais
je
pas.
Je lui ai dit hors micro et du coup, il le répète. Il est pas gentil. Hein.
D'ailleurs, je t'ai dit, mais il faut pas me dire des choses comme ça. Non, Valérie, tu n'interviens pas.
Mais j'interviens pas.
Est-ce qu'il y a une particularité dans ce style d'écriture haïtien que toi qui lis beaucoup de livres, est-ce que tu trouves une particularité ?
Il y a ce côté poétique chantant, et en même temps, pour lui en tout cas, cette poésie sert à décrire la misère, donc du coup, ça en fait aussi, ça fait un peu une arme politique, quoi, en quelque sorte, quoi. Mmh. Après, c'est comme dans toutes les écritures, quoi. Il y a une écriture indienne, américaine, qui sont très différentes et compagnie, quoi. Donc chaque nationalité, finalement, a ses particularités, quoi. Mmh.
Oui, t'as envie, à la fin de ce livre, de te dire, mais il faut aider ces gens-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans le livre à Mayotte, en te disant, oui. Parce que c'est des personnages attachants.
Après,
et
je
dire,
sais pas du
on
tout.
On peut pas laisser ces gens dans cette misère-là.
Après, là, c'est vrai que ça se passe pendant qu'il a écrit, donc en
44. Ça a été publié récemment.
Après, il y a eu d'autres drames à Haïti.
Bien sûr.
Voilà, je sais pas si la situation est toujours la même. Je suppose qu'elle a pas énormément changé non plus, vu que... La situation de la Guyane, par exemple, qui nous revient en pleine figure en ce moment. Mais
Et Haïti, c'est indépendant ou
c'est indépendant depuis 1804.
D'accord.
Parce que Napoléon a perdu.
Merci, oui. Napoléon. Et Mayotte, tu disais que c'était français depuis 2011. C'est très récent.
C'est très récent. Il y a eu un référendum pour savoir s'il voulait devenir français ou pas, ou redevenir. Je ne sais pas s'il était avant que ça s'est arrêté. Je ne sais pas.
D'accord.
Je t'imaginais lire cette chronique par-dessus la musique de la Compagnie Créole. Mais du coup, c'était bien. C'était quelque chose. Donc, j'ai décidé de remettre la musique pour la chronique de Valérie pour que tu lises dessus. C'est gay, est-ce que tu vas nous présenter?
Ouais, franchement, moi, ça fait vraiment rire.
Moi, je
les oiseaux
pas,
et
alors.
Chanter les abeilles.
Je vais la garder pour
ça
Héloïse.
Ça change, alors.
Les soleils, non, par contre, non, c'est pas les abeilles dans la parole. Ça fait chanter les soleils.
Ça fait chanter les... Moi, je crois que c'était les abeilles.
On la réécoutera en fin d'émission.
On le remettra pour toi,
Héloïse. On va le remettre, tiens. Je vais le caler dessus.
Les paroles. Ben moi, c'est sans transition, puisque c'est aussi un livre de chez Zulma. Et c'est aussi un auteur haïtien. Et c'est aussi un auteur qui a vécu peu de temps, puisque lui, il a été tué à 39 ans, notre auteur.
Ah, le mien, on pense qu'il a été empoisonné.
Mais moi, il pense qu'il a été tué parce qu'on l'a pas revu depuis ses 39 ans, en fait. Donc,
on
est dans la même, dans le même type de personnage, puis c'est la même époque, hein, puisque moi, il est né en 22, donc on est vraiment sur la même époque. Moi, c'est un livre de Jacques Stéphane Alexis, qui est médecin et écrivain haïtien, par contre, qui est très connu plus pour ses prises de position politique contre la dictature que pour ses livres, et c'est bien dommage parce que son écriture est, je pense, une des plus belles écritures que j'ai jamais lues. Voilà.
Pour, à ce point-là, c'est vrai.
À ce point-là, ouais. Ah. C'est délectant, c'est incroyable son écriture. Donc lui, en fait, il a fait des études à Paris. Il est devenu neurochirurgien. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait un côté scientifique, mais qui écrivait beaucoup et notamment pour tout ce qui était politique. Il a fondé La Ruche, donc qui est un groupe dédié au renouveau littéraire et politique à Hawaï, qui lui a valu pas mal de problèmes. Ça, c'était en 1940. Après, il a quand même publié entre-temps chez Gallimard une œuvre qui a frôlé le Goncourt, paraît-il, qui s'appelait Compère Général Soleil. Et en même temps, il s'engageait. Donc, il a été à Moscou, signé un accord avec 80 pays, la déclaration des 81 au nom des communistes haïtiens. Donc, autant vous dire, quand il est rentré à Haïti, quand il voulait lutter contre Monsieur François Duvalier, il a été attendu à son arrivée et on suppose que le comité d'accueil qui lui a été fait a été assez efficace puisqu'on ne l'a jamais revu. Voilà. Donc, le livre que j'ai dans les mains aujourd'hui, ce petit bijou de littérature, s'appelle L'étoile absente. Il a la particularité d'avoir été traduit directement depuis l'unique manuscrit qui restait de Jacques Stéphane Alexis. Donc, dans le manuscrit, sur le départ, il y avait des trous, en fait, puisque le papier avait été abîmé. Et Zulma a publié le livre tel que le manuscrit avait été fait. C'est-à-dire que sur les premières pages, il y a des trous. Il manque des mots.
Il était mangé sur la plage.
C'est ça, voilà. Alors,
non, mais
au départ,
du coup, document, en plus, historique.
Voilà.
Quoi,
mais donc, sur les deux, trois premières pages, moi, au départ, ça m'a frustrée parce que je me suis dit, punaise, l'histoire est belle et il manque des mots.
C'est des mots ou des pages entières?
Non, c'est des trous, mais c'est que sur les premières pages, en fait.
Ah, d'accord.
Au bout de la page 3, déjà, ça y est, c'est fini.
Oh, génial. Voilà,
ouais, même dans la PAO, quoi.
Voilà, donc,
sur la mise en page, en fait, il y a vraiment des trous dans le texte, des trous blancs.
Mais ça s'arrête après. Donc, ça va très, très vite.
Ça serait pas un coup marketing, ça, de la maison d'édition?
Non, je pense pas, parce que
personne n'en a parlé. Il est sorti, il n'y a pas eu beaucoup de presse malheureusement, mais bon.
Ah. Et c'est bien dommage parce que c'est magnifique. Donc l'histoire en elle-même, donc voilà, je vous ai décrit un petit peu l'auteur, n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ses idées politiques. Enfin, on ressent pas du tout un peu la noirceur qu'il peut y avoir dans ton roman.
Tu dis ça, mais à la fin du mien, il y a l'auteur Jacques-Stéphane Alexis qui a écrit un texte sur Jacques Roumain pour décrire son œuvre. Donc, preuve que Jacques Roumain a inspiré pas mal de, d'auteurs haïtiens. Quoi, mais du coup, il parle aussi d'un peu de, du communisme. Quoi.
Là, ça a été
Je crois qu'Héloïse veut intervenir.
Je suis contente de cette interaction soudaine.
Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est génial, ça voit les liens qu'il y a entre des super auteurs. Donc, l'histoire en elle-même, c'est donc Eglantine, qui s'appelait auparavant la Niña Estrelita, qui était prostituée donc, dans un endroit sordide à Port-au-Prince, qui décide donc de changer d'existence. Elle part avec l'argent d'un de ses, comment on dit, pourrait dire, généreux donateurs. Ah. Voilà. Et elle s'enferme dans une pension Colibri à Port-au-Prince. Déjà, rien que le nom de la pension, moi, ça a commencé à me faire voyager. Elle est toute seule, elle pleure, enfin, c'est très, très bien décrit. Et elle rencontre un jour dans sa pension une femme qui s'appelle Célie Chéri. Alors, les noms des gens sont toujours un peu... très désir.
C'est assez rigolo, ça.
Fais attention à ce que tu dis.
Non, je trouve ça un cliché.
Il y en a moins dans cette émission qui parlent juste de moyens de locomotion et qui se font attaquer. Donc, attention.
Non, mais je mets un cliché sur les noms.
C'est mignon et c'est un peu désuet, mais c'est un charme
c'est ça,
incroyable.
Mais ça veut tout dire, en fait. Et Célie Chéri, donc, c'est une femme qui est dure, qui est seule, c'est une battante. Et elle va aider donc, Niña Estrelita, qui se fait renommer l'Églantine, à s'affranchir. Elle va la pousser à tout lâcher. Ensemble, elles vont affréter un voilier qui s'appelle le Dieu Premier. Elles vont payer un équipage et vont se lancer dans le commerce de sel. Changement radical de cap pour notre ancienne prostituée, mais qui avait vraiment envie de changer. Donc l'Églantine, elle va quitter la terre en laissant derrière elle sa vieille vie avec toute la violence qu'il peut y avoir. Et elle va donc embarquer sur ce bateau donc avec Célie Chéri, avec des marins où elle va encore avoir des pulsions de son ancienne vie, mais elle va se retenir. Enfin, c'est assez fou.
C'est elle les boss, c'est elle les chefs d'entreprise.
Elle qui affrète, en fait, avec la Niña Estrelita, l'Églantine, elle va utiliser toutes ses économies pour ça. Elle se dit, de toute façon, si j'achète une maison pourrie avec le peu d'argent que j'ai, je vais avoir une vie misérable. Donc, allez, tant pis, je tente le tout pour le tout. J'investis tout dans ce trajet. Je vais aller ramasser un peu de sel de l'autre côté, donc on ne sait pas trop où ça se situe. Et je reviendrai, je le vendrai ou je reviendrai.
C'est toujours à Haïti, du coup, on ne sait même
pas.
Elle
part d'Haïti, mais on ne sait pas.
Si elle reste sur le territoire ou si elle part ailleurs.
Après, elle part. Et après, pratiquement tout le livre.
C'est une fiction ou l'auteur a rencontré une.
Non, je pense que c'est une fiction. C'est une fiction, ouais. Après, et en fait, donc là, c'est le départ donc, dans ce voilier. Et toute l'histoire va. Pratiquement toute l'histoire va se passer sur ce bateau. Et arrive, bien sûr, la tempête, avec les éléments déchaînés, le vent, l'ébranlement du voilier, la confusion, le soulèvement de la mer, la lutte des marins. Et en fait, tout ça, frôler la mort, c'est la tempête qui arrive au sens réel. Mais après, on s'imagine aussi que c'est dans la tête de chacun des personnages que tout ça se produit, l'instinct de survie, enfin, les réactions quand on est face à la mort. Voilà. Et on en arrive, en fait, dans cette tempête, à comprendre pourquoi... le titre du livre, L'étoile absente, il faut savoir que dans l'Apocalypse selon Saint Jean, il y a une phrase qui dit « Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et des sources des eaux. Le nom de cette étoile est absente, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Et il a tout réussi.
Alléluia, bonjour.
C'était beau. Alors moi qui suis pas friande de ce genre de choses.
Par contre, t'es friande d'absinthe.
D'absinthe
un peu. Non, mais c'est vrai qu'on comprend du coup l'alcool tire son nom de cette étoile sans
tout
doute. Qui l'alcool est amer.
Qui est amer.
Il a fait mourir beaucoup d'hommes. Enfin, c'est quand même fou, quoi.
Ouais. Et ça représente tout à fait le. Ça présente tout à fait le.
À l'époque, ils n'avaient pas, beaucoup de livres pour chercher des noms d'alcool. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, Héloïse. Ils avaient la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ils se sont dit oula.
Je pensais que c'était une plante, l'absinthe. Je ne pensais pas que ça venait d'une étoile. Je pensais qu'une plante s'appelait comme ça.
Oui, mais c'est possible que le nom de la plante a été donné par rapport à l'Apocalypse, en fait. Après, je n'ai pas été chercher si même.
On va aller demander à Alain Rey, tiens.
Voilà. Ou peut-être c'est le contraire, hein, c'est que la plante existait déjà et quand on a écrit la Bible, on s'est basé sur le nom de cette plante. Bah, qui faut, était
on vous dira à la prochaine émission ce qu'on a trouvé. Et du coup, en fait, le reste du roman, c'est qu'elles sont sur le bateau et c'est leur aventure sur le voilier.
C'est ça. D'accord. Mais c'est pas très long. Hein, c'est un livre qui fait quoi, ouais, qui fait 150 pages. Mais non, même pas, un peu moins, puisqu'il y a une petite nouvelle très courte à la fin. Donc un peu moins, mais ça va vite. Mais c'est
bon, qu'est-ce qui se passe après cette tempête?
Mais non, je peux pas vous le dire.
Allez. Mais il y a pas d'avenir du tout.
Si, c'est beau, c'est magnifique. C'est il y a l'histoire, et puis il y a le côté humain derrière. Enfin, il y a beaucoup la psychologie des personnages qui est mise en avant. C'est magnifique. Là, j'ai sélectionné l'extrait où en fait il voit la tempête approcher pour vous donner un peu le ton de l'écriture. En effet, le saillant d'ombre et d'aube, qui tout à l'heure s'était formé au septentrion, a vu son angle terminal s'embraser peu à peu, se délayer en un magma confus. Le rideau des nuées accomplit un mouvement tournant vers l'est, où l'astre blafard combat désespérément l'ombre envahissant, qui sans arrêt plaque de teintes sombres l'éclatant drap d'aurore. Tous les soleils nocturnes se sont éteints. Dans la suie funèbre des cumulus qui s'approchent, les chevaux d'Apocalypse, dont on commence à deviner le hennissement, tout le rouge matinal se noie et meurt. Seule la boule solaire flamboie dans la nuit revenue. Le crépuscule du matin s'est mué en un rabat-jour angoissant.
C'est pas mal.
C'est très métaphorique, mais super, très beau. Quoi.
Mais c'est
pas mieux que Natacha Pana, mais c'est bien. C'est joli.
C'est un peu plus... Toi, tu aimais les phrases courtes. Moi, d'habitude, je ne suis pas forcément...
Toi, tu aimes les phrases longues.
Pas forcément que les phrases, mais c'est... Non, j'aime les livres qui sont un peu longs.
Ah, pardon, on n'a pas compris. On n'a pas compris.
Oh, mais vous êtes... Non, et c'est...
Allez, il va falloir s'arrêter, là, Valérie, parce que ça...
Non, c'est superbe. C'est vraiment...
D'accord.
Alors, le livre est court, l'histoire, elle est pas très longue, mais c'est tellement décrit, il y a tellement de... Voilà, comme tu disais...
Se plonger dans une expérience, quoi.
C'est magnifique.
Longue
et expérience. Et c'est pétillant.
Surtout. Merci Valérie.
Voilà, j'ai adoré.
Super, toi aussi tu es pétillante aujourd'hui.
Merci Ludovic.
Héloïse, allez.
Ça ne remet pas.
Désolée.
Héloïse, il lui reste deux livres, je ne sais pas pourquoi.
C'est deux livres qui vont ensemble.
Ah,
c'est-à-dire, je vais vous parler d'un recueil de contes écrit par Henri Gougaud, qui est un très chouette conteur. Je ne sais pas si tu connais Valérie, notre conteuse en chef.
Hélas.
Non. Bon, du coup, il...
Valérie
quand même, une conteuse professionnelle.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Bah attends.
Qu'on va retrouver bientôt peut-être dans un autre département, on n'en dit rien pour l'instant.
Si tu peux le dire maintenant.
Si, c'est bon. Qu'on va retrouver à Lyon pour La Lozère pousse le bouchon, pour représenter grandement les couleurs lozériennes.
Voilà. Des contes lozériens sous fond d'accordéon.
Voilà. Super. Tu joueras de l'accordéon toi-même?
Je vais essayer.
Génial.
Ah, tu pourrais jouer la compagnie créole en accordéon?
J'ai, ça fait rire les oiseaux.
C'est vrai, tu l'as? Génial. Allez, allons-y.
Donc Henri Gougaud, qui est un conteur qui s'inspire beaucoup des mythologies du monde, a écrit donc ce recueil de contes, Les Contes du Pacifique. Donc c'est un livre jeunesse adulte, vraiment, les contes, on sait bien que c'est pour tout le monde. Donc c'est illustré par Laura Rosano, c'est aux éditions du Seuil. Et donc c'est des illustrations à la façon un peu, à la manière un peu maori, c'est-à-dire avec, voyez, avec beaucoup de couleurs dans les ocres, aussi les bleus, la couleur de la terre, et avec des petits points en fait qui font les personnages, les constellations, etc. Et donc Henri Gougaud s'inspire directement des mythes fondateurs de l'Océanie et du Pacifique. Et c'est une mythologie en fait qu'on connaît pas vraiment. C'est vrai qu'elle est très différente de la nôtre ou de la mythologie nordique qu'on peut connaître aussi. Et c'est passionnant en fait de lire ces petits contes-là. Donc vous avez par exemple comment Hawaï est apparu dans l'océan. Ce que je veux vous dire.
Ça va devenir à la mode avec Walt Disney qui a sorti Vaiana dernièrement.
Ah bah peut-être. Il est déjà sorti ce dessin.
Vaiana s'est inspiré de.
Je pense que Vaiana s'est inspiré des contes traditionnels du Pacifique. Oui, mais c'est eux qui peuvent populariser.
Ceci dit, il n'est pas trop bête comme dessin animé.
Il paraît, ouais.
Ah, mais il y a des bons Disney.
C'est très joli.
Oui.
Et donc, du coup, voilà, c'est la mythologie hawaïenne, tahitienne, papouasie, etc. C'est vraiment passionnant. C'est très imagé, c'est très beau, mais c'est aussi très cruel. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure des contes que je lisais, Ça ne se finit jamais bien. Il y a toujours des morts assez sanglantes. C'est très cru aussi. Il y a beaucoup, on parle beaucoup de sexe. Enfin, c'est vraiment, c'est assez étonnant. Et
pour Lyon, Valérie.
Hein, et c'est à découvrir.
Tu pousses le bouchon à Lyon. C'est
par
ça
exemple, le premier conte qui a une morale assez, vraiment, vraiment cruelle, ça s'appelle Un peu de soleil dans la mer. Et donc, c'est 5 pêcheurs qui vont pêcher dans leur pirogue. Et il y a un des pêcheurs, en fait, qui aperçoit un éclat, quelque chose qui brille, en fait, au fond de la mer. Et il dit, il faut descendre, enfin, il faut y aller, ça doit être un trésor de nacre. Il n'arrive pas à descendre aussi loin, donc ils se disent, allez, on retourne sur terre, on va chercher des pierres, on va se les attacher aux pieds, comme ça, on pourra atteindre le trésor.
Quelle horreur.
Ils vont tous mourir.
Un par un, les pêcheurs, en fait, le premier pêcheur y va avec ses pierres autour des pieds, et les autres, ils remontent pas, donc les autres disent, on va peut-être aller l'aider, le trésor doit être trop lourd, quoi. Et un par un, ils y vont, et en fait, ils restent tous au fond de la mer parce que c'était juste un éclat de soleil, un reflet du soleil dans la mer, quoi.
Et quelle est la morale de ce conte ?
La morale, c'est, je pense qu'il faut pas être trop cupide, quoi. Voilà.
Mais les contes sont toujours un peu cruels, non ?
Ah bah, toujours.
Ouais, mais là, par exemple,
Blanche-Neige, Grand Manille,
je vais te dire quand même qu'il y a un conte qui s'appelle
Barbe Bleue. Ils s'en sortent dans Barbe Bleue. Sa fiancée s'en sort quand les frères arrivent de la sœur.
Ça dépend des versions. Après,
Marie, mais... Marie, non, c'est pas ça. C'est quoi déjà ?
Si tu savais.
Très bien. Hélène, vas-y, interviens.
Vas-y,
c'est ton anniversaire, allez.
Vas-y, mais tous les autres.
Non, c'est bon.
Il y a un conte, par exemple, qui s'appelle La fille tuée 7 fois. Et c'est des choses comme ça, c'est toujours des amours impossibles, des histoires de meurtre. Après, voilà. Donc, du coup, j'ai lu ces contes-là. Ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, j'ai été chercher ma petite encyclopédie Mythologie du monde qu'on m'a offert à mes 18 ans. Voilà, et qui reste un de mes livres de référence. Mmh. Et du coup, j'ai un peu lu ce qui se passait. Et donc, les contes, effectivement, d'Henri Gougou s'inspirent directement de la mythologie océanique, les vrais contes, les vraies histoires, les vrais dieux, etc.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des dieux spécifiques à l'Océanie ?
Oui, tout à fait. Alors, à la base, déjà, il y a juste deux dieux. Il y a Rangi et Papa. Papa qui est une déesse, la déesse de la Terre. Donc, la Terre représente la féminité. Et Rangi, c'est le ciel.
D'accord.
Voilà. Et sur le mythe de la fondation de l'univers, qui est un mythe très beau et c'est drôle. C'est le dernier d'Henri Gougou qui s'appelle « Les premières amours du monde ». Et en fait, c'est les deux qui se rejoignent et qui font l'amour et qui restent en fait collés tous les deux tellement ils sont bien tous les deux. Seulement, il y a les enfants en fait qui naissent petit à petit comme ça de cet amour statique et qui au bout d'un moment, on étouffe entre papa et maman, on va essayer de les séparer et de créer la terre. Et du coup, tu es les enfants qui essayent de piquer leurs parents, qui essayent de les séparer, etc. Et donc, ils finissent par les séparer et ils créent la terre comme ça, quoi. Enfin, c'est très imagé, c'est très poétique, il y a beaucoup, beaucoup d'humour aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et après, il y a juste l'histoire du... Vous connaissez le capitaine Cook ?
Oui.
Voilà.
Celui qui fait les poissons panés.
Effectivement.
C'est ça.
C'est Igloo.
Non, pas Captain Igloo.
C'est pas Igloo.
Igloo. Bon, bref, vas-y.
Et donc, le capitaine Cook, qui est un grand explorateur, qui a découvert notamment l'archipel de Hawaï, mm-hmm. et qui s'est fait tuer par les Hawaïens, en fait, qui s'est fait assassiner par eux. Mais c'est à cause, en fait, d'une simple histoire de Dieu. C'est-à-dire qu'il est arrivé au mauvais moment sur l'archipel d'Hawaï. C'était le commencement du cycle du dieu Lono. Et Lono, en fait, on le célèbre pendant des mois. Et il y a tout un rituel comme quoi, dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait le tour de l'île avec son portrait, etc. Et donc, le capitaine Cook est arrivé au début de la célébration du dieu Lono sur l'île. Il a fait le tour de l'île dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, les Hawaïens se sont dit, mais en fait, c'est la personnification de Lono qui vient nous voir. Donc en fait, ils l'ont accueilli, mais comme un roi, un comme dieu. Un dieu
tu sens
pendant
le truc
des mois.
Qui vient, là
et, après, Et après, en fait, à la fin du cycle, l'Ono, pour la fertilité de la Terre, etc., doit mourir. Et les Hawaïens ont demandé au capitaine Cook dans leur langue, voilà, s'il allait partir, s'il allait mourir, comme la tradition le veut. Il se trouve que le capitaine Cook part dans son bateau, même si je pense qu'il n'a pas compris que c'est un concours de circonstances. Oui. Et finalement, il a un problème technique sur son bateau et il revient. Et les Hawaïens sont très fâchés de voir leur dieu revenir alors qu'il doit mourir. Et du coup, bah, ils assassinent Cook, qui pour eux était l'Ono.
Attends, le type, il a foiré, voilà.
Ben, en même temps, voilà, c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas appréhender. Je pense qu'il y avait un problème de langue aussi à l'époque. Et voilà. Mais donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont inédites, en tout cas pour moi. Je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant. Les mythologies, moi, j'adore. Et
moi aussi, voilà.
C'est génial. Et est-ce que vous, dans vos livres, Ludo et Valérie, ça en parle de ça? Parce que moi, dans Gouverneur de la Rosée, ils parlent beaucoup de la religion chrétienne, parce que je pense qu'à un moment, ils ont été évangélisés comme tous les peuples qui ont été colonisés, quoi. Mais ça parle aussi des rituels vaudous, des anciens dieux africains et compagnie, quoi. Ça en parle, vous?
Moi, j'ai pas mal de... Là, j'ai ouvert... Je me rappelais la page. J'ai ouvert sur une...
Il parle à Dieu, parce que moi, il parle tout le temps au Dieu.
Chanter l'Éternel, vous qui l'aimez, célébré par vos louanges, sa sainteté. Et des fois, ils mettent même un peu de créole. Ils les font après en créole, tu vois, à la fin. Qui met les nous, qui met les nous, il y avait l'orage grondé,
ils font ça aussi.
C'est pas mal,
ils
tu font sens des qu'ils prières. Ils sont quand même bien imprégnés de religion.
De religion après, et quelle soit. Par exemple, l'orage dans la mythologie océanique, c'est la déesse Terre qui annonce en fait sa venue sur Terre, par exemple. Des petites choses comme ça. Ça joue beaucoup sur la nature, sur les événements en fait. Que la nature peut nous offrir, quoi. Même la patate douce, c'est l'ingrédient qu'on mange le plus là-bas, le condiment. Et donc, il y a l'apparition de la patate douce d'une manière très drôle dans la mythologie océanique. Et voilà, mais que je ne citerai pas ici, quoi.
Mais écoute, tu dois avoir tes raisons.
Le micro sera coupé, tu vas nous le dire.
Tiens, c'est l'heure. Génial. Oh, on n'a pas d'émission pour dans deux semaines, on n'a pas de thème.
On n'a pas de livre, surtout.
On n'a pas de livre.
Bah, c'est vrai, là, j'ai un peu péché sur ce coup-là, mais je me disais qu'on aurait pu, comme on avait dit, qu'on se passerait nos livres qu'on voulait de nos bibliothèques à nous.
Sans qu'on se dise
qui ça provient, ouais, c'est ça. On va faire un petit tirage au sort.
On va faire un tirage au sort.
Il faut qu'on rentre.
Excellent, ça.
Sur notre œil.
Non, c'est bon.
Mais si, parce que sinon, tu vas savoir.
Mais non, mais je vais tous. Ah oui, c'est vrai.
Non, mais pas de Joël Batz.
Quoi? Sinon, c'est que c'est pas.
Vous allez savoir que c'est vrai.
Qu'est-ce que tu disais? Donc, ça fait rire quoi, les abeilles? C'est toi, le soleil
agents, ça fait chanter les abeilles.
Ah, le soleil. Ça moi, j'ai toujours entendu le soleil.
On pourrait faire un jeu pour faire gagner des trucs.
Ça fait chanter quoi,
le soleil.
Elga. Soleil, abeille, Elga.
Écureuil.
Ça fait chanter les écureuils. Mais non, ça rime pas, Elga. N'importe quoi. Allez, on se quitte.
On a des lacunes en compagnie créée.
À bientôt.
On va écouter. Allez, ciao.
Bye.
Et bravo Valérie, la reine de la compagnie.
Je vous le fais à l'accordéon la prochaine fois.
T'as gagné le droit de chanter.
Et dans deux semaines, on mettra un autre morceau de la compagnie créole,
voilà,
pour te faire plaisir.
C'est génial.
Et parce que Pauline, elle a pas entendu cette pauvre amie. Allez, ciao les filles, à bientôt.
Bye, bonne semaine.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.